Bienvenue dans l'émission Les Voix Paysannes, émission de l'ADR 82, épisode 24. Je suis Jeanne Pageot, volontaire service civique à l'ADR 82, et aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question « Comment se porte l'élevage en Tarn-et-Garonne ?» L'ADR 82, c'est l'association du développement de l'emploi agricole et rural présente dans de nombreux départements de France. Aujourd'hui, nous parlons d'élevage dans le Tarn-et-Garonne. Le territoire est plutôt tourné vers la culture végétale, entre grandes cultures et arboriculture. Mais l'élevage représente 32% des fermes du département en 2022, avec en majorité des fermes de bovins viande. Il y a aussi une centaine de fermes d'élevage de moutons, de vaches et de chèvres laitières. L'agriculture, et particulièrement l'élevage, ont été mis au cœur de l'actualité depuis le mois de décembre. On a pu constater de nombreuses mobilisations de syndicats agricoles. Et en effet, la coordination rurale et la confédération paysanne manifestent leur désaccord vis-à-vis de la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les quatre pays du Mercosur. À cela s'ajoute leur désaccord face à l'abattage total des troupeaux de bovins, considéré comme excessif lorsque seuls quelques animaux sont atteints de la DNC. La DNC, donc la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, est arrivée en décembre sur le territoire du Sud-Ouest. Elle avait d'abord sévi en Auvergne-Rhône-Alpes cet été. C'est alors l'occasion pour moi de revenir sur le métier des éleveurs pour essayer de mieux comprendre cette activité et ses enjeux, spécifiquement dans le Tarn-et-Garonne. On va essayer d'explorer les difficultés qui existent dans cette profession et dans la filière d'élevage de façon plus générale. Ce qui permettra peut-être de mieux saisir pourquoi c'est d'autant plus dur pour les agriculteurs dans une période de crise. Dans cet épisode, on va entendre deux témoignages. Celui de Francis, ancien éleveur de bovins viande, est parti à la retraite très récemment, en décembre 2025. Puis ensuite, on entendra Andrea, installé récemment en élevage de chèvres laitières. Je les ai rencontrés sur la commune de La Française, en décembre, au guichet agricole. C'est un espace de discussion et d'information destiné aux agriculteurs et ce jour-là, une réunion était proposée sur la situation des fermes d'élevage du territoire, réunissant des éleveurs, des maires et des acteurs de l'accompagnement agricole. Alors installez-vous confortablement, les voix paysannes commencent.
Bonjour Francis, sur le Tarn-et-Garonne, à La Française, installé depuis 81 et en élevage à l'étang. Sur une cinquantaine d'hectares. Et je prends la retraite en fin d'année avec un repreneur sur place.
Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à venir aujourd'hui à la rencontre à La Française ?
Des renseignements par rapport à la retraite et par rapport à l'actualité sur l'élevage.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'état de la filière élevage, en tout cas de ce que vous observez, vous, depuis votre métier, et spécifiquement dans le Tarn-et-Garonne ?
Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on ne comprend pas trop l'actualité, parce que tous les ans, il y a de nouvelles maladies. Et actuellement, on veut éradiquer l'élevage. On ne comprend pas comment il faut abattre toutes les bêtes d'un troupeau en ayant une bête malade. Éventuellement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre les bêtes saines en quarantaine, c'est-à-dire pendant 60 jours, interdire les sorties et les rentrées, et voir l'évolution. Si la maladie continue, bon, dans ces cas-là, il faut abattre. Sinon, s'il n'y a pas d'autres cas, j'estime que l'éleveur serait moins traumatisé, parce que c'est facile de dire que l'éleveur aura les moyens de renouveler le troupeau, mais il ne connaîtra pas les bêtes qui arrivent, et c'est toute une vie, et puis ça va décourager certains éleveurs à repartir, et peut-être certains jeunes ne vont pas reprendre l'exploitation vu le contexte. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prennent à la retraite, il n'y a pas de repreneurs. Et c'est très compliqué à l'élevage, parce que l'élevage, c'est du 1er janvier au 31 décembre, 7 jours sur 7. Et à part les jeunes qui se regroupent, ça leur permet d'avoir un peu de temps libre pour partir en vacances. Moi, je ne me plains pas, mais depuis 2002, Je n'ai pas pris un seul jour. Je me suis fait opérer d'une hernie inguinale en 2016. Et je suis rentré le soir même en ambulatoire pour voir mes bêtes. Et bon, j'avais fait appel au service de remplacement qui s'en est très bien occupé. Mais autrement, je ne pouvais pas rester plus longtemps hors de la ferme parce que... il y a toujours une surveillance à assurer, et comme j'étais seul à assurer, je ne pouvais pas faire autrement.
Et donc vous observez quand même des installations, vous parliez en collectif justement pour, libérer les astreintes.
Oui, il y a certains jeunes qui arrivent à s'entendre, et bon, ici ce n'est pas le cas parce qu'il y a très peu d'élevage, mais sinon il y a certaines régions d'élevage, ils se regroupent à deux ou trois, et ils regroupent aussi bien les troupeaux, ou ils créent un troupeau et ils s'arrangent pour se libérer pour des vacances, pour des soirées en famille ou des week-ends en famille.
Est-ce que vous auriez une idée sur des leviers qui pourraient faciliter la transmission de fermes en élevage? Qu'est-ce qui pourrait peut-être changer pour améliorer les choses et installer plus de jeunes?
Pour installer davantage de jeunes, il faudrait que le métier soit viable et qu'il y ait surtout moins de contraintes et qu'on revienne un peu à l'esprit paysan, c'est-à-dire le savoir-faire. Et on a perdu pratiquement 50 ans. On a sélectionné des variétés aussi bien en céréales qu'en fruits qui sont très productives, mais qui par contre ont besoin de traitement, comme les animaux. Les animaux, on a sélectionné pas mal d'animaux qui sont plus fragiles en élevage, et c'est là qu'on voit apparaître certaines maladies qui n'existaient pas. Bon, peut-être elles sont venues de l'étranger par les transports, comme la grippe aviaire, soi-disant venue par les oiseaux migrateurs. Et est-ce que... Sur l'élevage, c'est pas pareil.
Peut-être revenir justement sur des races plus rustiques.
Oui, certaines régions ont réussi à conserver des races rustiques et moins contraignantes en alimentation. Ça permet à certains éleveurs d'être autonomes et pour éviter l'achat d'aliments extérieurs et surtout d'OGM, puisque les OGM sont interdits en France et par contre on en fait rentrer. C'est comme les produits agricoles actuellement avec tout ce qui se passe. On va faire rentrer des produits qui ont été traités avec des produits qui sont interdits en France. Et je ne vois pas pourquoi. Je suis pour l'interdiction, mais pas pour laisser rentrer des aliments qui ont été traités par tous ces pesticides, puisque il y a actuellement une recrudescence de cancer, et est-ce que c'est lié ou pas? Je ne suis pas spécialiste. Peut-être l'agriculture sera sauvée par la vente directe, mais faut-il qu'il y ait les clients, puisque certains ont mis en place des casiers qui marchait très bien pendant le Covid, et quand le Covid a été pratiquement fini, certains casiers n'avaient pas le débit qu'ils avaient pendant le Covid. C'est là qu'on s'aperçoit que ça tient un peu pour que ça marche.
Ok, donc il faut continuer à développer tout ça, du coup.
Voilà, il faut voir plusieurs orientations et... il faut faire confiance à la jeunesse actuelle qui diversifie plus que les anciens et qui n'ont pas peur de faire des stages à l'extérieur des exploitations pour connaître d'autres modes de culture.
Comme l'a dit Francis, pratiquer de l'élevage en collectif, c'est avantageux. Ça permet de répartir les astreintes entre chaque associé de la ferme. Il est fréquent que l'organisation permette de libérer un week-end sur deux, par exemple. Les responsabilités et la charge mentale sont aussi partagées, ce qui peut apaiser le travail et limiter l'isolement des agriculteurs. Les agriculteurs associés, qu'ils soient 2, 3 ou 4, peuvent aussi choisir de diversifier les productions à la ferme, ce qui permet d'avoir diverses sources de revenus en cas de problème sanitaire avec le troupeau, par exemple. Le métier d'éleveur connaît de plus en plus de contraintes depuis ces dernières décennies. C'est d'abord un travail avec un emploi du temps particulier, qui implique des astreintes quasiment toute l'année. On peut ajouter à ça les nouvelles maladies qui sévissent, les différents accords de libre-échange qui mettent en concurrence les éleveurs avec des pays n'ayant pas les mêmes normes de production, ni les mêmes droits et conditions de travail. Il y a par ailleurs de nombreuses contraintes administratives, des fermetures d'abattoirs et des reprises de fermes d'élevage très coûteuses au vu de la taille et des équipements des exploitations, avec aussi le fait que les prêts bancaires sont assez limités actuellement. Ce sont de nombreux aspects qui peuvent décourager et qui ont découragé certains éleveurs et futurs agriculteurs qui avaient le projet de s'installer. Pourtant, l'élevage en France ne disparaît pas. La passion et l'attachement à ce métier est encore présent chez nombre d'entre eux. D'une façon générale, le renouvellement des générations agricoles est un enjeu primordial cette décennie. Dans le 82, un agriculteur sur deux a plus de 55 ans. Dans la région, le taux de renouvellement des fermes, c'est-à-dire le nombre d'installations par rapport au nombre total d'agriculteurs, est le plus important en maraîchage, en élevage avicole, en élevage équin et porcin, et plus récemment en arboriculture. Donc on voit que l'élevage n'est pas un secteur très attractif. Mais on retrouve dans les chiffres de la MSA qu'il y a tout de même des installations en élevage, mais pas suffisantes pour compenser tous les départs à la retraite. Et ce, particulièrement en élevage bovin laitier pour la région Occitanie. Il est important de préciser que l'activité d'élevage apporte des biens et des services essentiels aux humains, qu'on appelle en agronomie les services écosystémiques. Non seulement il fournit de la nourriture aux humains, et ça tout le monde le sait, mais aussi dans certains systèmes techniques, l'élevage fournit à la société de nombreux services tels que le maintien de la biodiversité dans les prairies par exemple, de l'esthétisme des paysages, et aussi le stockage de carbone et l'amélioration de la qualité de l'eau. Et ces systèmes d'élevage qui permettent cela sont ceux où le fourrage des animaux est en majeure partie apporté par des prairies permanentes, c'est-à-dire qu'ils restent plus de 5 ans en place sans être labourés. La présence d'élevage dans un territoire permet aussi d'éviter un enfrichement excessif et apporte aux agriculteurs du fumier et du lisier, souvent bénéfiques pour la fertilisation des sols cultivés. Le métier d'éleveur est aussi un métier épanouissant. Grâce à la relation avec les animaux au quotidien, ou encore la polyvalence du métier et l'activité du corps, certains ressentent une profonde satisfaction à pouvoir maîtriser la production de bout en bout, du produit brut à la commercialisation. Tout de suite, une petite coupure musicale, et nous revenons juste après pour la suite de l'épisode.
Yeah.
Vous venez d'écouter Wanted Back de Guts, Patrice et du chœur d'enfants du Studio School Voices de New York. Revenons maintenant sur l'émission Les Voix Paysannes, épisode 24. On part maintenant à la rencontre de Andrea, installée récemment en élevage de chèvres.
Alors, je m'appelle Andrea Zavagno. Je suis éleveuse, enfin j'ai, on va commencer peut-être par l'âge quand même, parce que je suis assez jeune agricultrice. Je vais sur mes 30 ans et je suis installée depuis 2021. Donc là, je termine ma cinquième année en tant qu'éleveuse de chèvres et fromagère sur la commune de La Française.
Et donc, qu'est-ce qui vous a mené à cette rencontre aujourd'hui à La Française ?
Alors, toute l'importance du coup du PAT, qui est le plan alimentaire du territoire, voilà, parce que j'y trouve quand même, je trouve que c'est quelque chose de très important pour notre territoire, de remettre un peu en avant l'agriculture, et aussi que les gens puissent consommer local, et voilà, de bons produits de nos fermes.
Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, on va dire, sur l'état de la filière d'élevage dans le Tarn-et-Garonne ? C'est un vaste sujet, mais...
Je trouve que le Tarn-et-Garonne est quand même un département où on a une énorme diversité agricole, dont l'élevage. Et même dans l'élevage, on a quand même une assez grande diversité, mais qui est actuellement quand même, même si on voit quelques reconversions avec des gens qui s'installent dans le milieu caprin, qui quand même voient pas mal de personnes partir à la retraite ou arrêter suite à un contexte économique ou autre, et ne pas être repris par la suite. Donc on est quand même de moins en moins nombreux sur le territoire.
Et donc, quel a été votre parcours vers l'installation, justement ?
Donc, pour mon installation, j'ai fait un apprentissage, 3 années d'apprentissage, 2 ans de BTS production animale, plus après une certification en élevage caprin et transformation fromagère. L'avantage de l'apprentissage, c'était de déjà découvrir vraiment le métier sur plusieurs semaines et tout ça. Et donc après réflexion de voir si potentiellement je m'associais ou je restais en tant que salarié chez mon ancien maître d'apprentissage. On était aussi en réflexion de s'installer sur un petit troupeau. Et en fait, on a eu l'opportunité d'acheter un domaine qui n'était pas destiné à l'élevage ni rien. Il n'y avait plus d'agriculture dessus depuis plus de 30 ans. Mais il y avait de la superficie, c'était clôturé, un petit bâtiment où on aurait pu mettre les chèvres. Et donc voilà, à force d'avoir réfléchi, on a plutôt penché sur une installation, une création d'exploitation, plutôt qu'une association avec mon ancien maître d'apprentissage. Et voilà, ça c'est... On a acheté en 2019, j'étais encore apprenti, le temps de faire après tout ce qui est administratif et tout. Voilà, je me suis installée 1 an et demi après, quoi.
Et aujourd'hui, du coup, vous voyez d'autres personnes s'installer autour de vous, en élevage en tout cas ?
Alors, j'en ai vu d'autres s'installer, et d'autres, même ceux qui se sont installés depuis, qui arrêtent déjà actuellement leur parcours.
Et est-ce que vous pourriez expliquer peut-être certaines difficultés du coup, que vous rencontrez dans ce domaine-là, justement, et peut-être qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne ?
Alors, une des grosses difficultés, ça va être l'aspect financier. Même si on part sur un petit système, il y a quand même des investissements à faire. Et tout est cher, hein, il faut dire ce qui est. On a quand même du mal du coup à en vivre, parce que même, je pense, une fois qu'on a amorti quand même, voilà, qu'on a fait tous nos investissements et tout, je pense que c'est quand même difficile d'en vivre aussi facilement qu'on le souhaiterait, avec des heures de travail correctes. Après, ouais, il y a le fait de, surtout en élevage et encore plus en élevage laitier, le travail d'astreinte qui est hyper important, avec du 7 jours sur 7 toute l'année. Voilà. Et la problématique de la main-d'œuvre, qui, nous n'avons pas forcément la capacité de les rémunérer au-delà peut-être du SMIC. Et en plus de ça, d'avoir des personnes qui, comme on en a discuté lors de la réunion, c'est un métier qui est polyvalent, donc c'est hyper intéressant pour nous, mais c'est très compliqué de trouver des salariés polyvalents. Donc, sur des petites structures, même s'il nous faudrait un salarié, il faudrait qu'il soit capable de tout faire. Et ça, c'est déjà difficile. Sur des plus grosses structures où on pourrait cibler un qui s'occupe de l'alimentation et de la traite des chèvres, l'autre de la fromagerie et tout. Donc, on aurait des personnes un peu moins polyvalentes. Malgré tout, c'est quand même compliqué de trouver parce que, un, ça a un certain coût. Et deux, on n'a pas forcément beaucoup de personnes formées ou qui accepteraient autant ce travail d'astreinte, même s'ils ne font pas forcément les week-ends, tout ça. C'est pas forcément évident. C'est très physique.
Et donc, qu'est-ce que vous a apporté, on va dire, cette rencontre par rapport au sujet ? Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur ce qui a été dit
Alors, sur ce qui a été dit, on a parlé un peu de toutes ces problématiques, les problématiques aussi de trouver de la clientèle de proximité, de devoir s'élargir. Je pense aussi qu'on élargit notre périmètre de vente pour éviter aussi de faire concurrence à nos propres voisins. C'est peut-être plus évident d'aller faire concurrence à des gens qu'on ne côtoie pas du tout, plutôt qu'à nos voisins ou mon maître d'apprentissage, par exemple, d'office. Enfin, voilà, j'empiéterai jamais sa clientèle, par respect et tout. Donc, je pense qu'il y a toute cette problématique-là, avec en plus l'augmentation du gasoil et tout, qui fait que, ben, en fait, on se dit, est-ce que c'est intéressant quand même d'aller aussi loin ? La problématique de l'abattage, qui même pour nous en élevage caprin est importante, surtout sur des petits systèmes où on pourrait valoriser la viande de chevreau, la viande des réformes et tout, et qui actuellement sur notre territoire n'est plus permis de par la fermeture des deux abattoirs du Tarn-et-Garonne, ou du moins mis assez difficile, surtout pour ceux qui sont sur le centre du département. Mais après, y a des points positifs. Hein. On aime nos métiers. en tout cas, moi, j'aime mon métier. Pour l'instant, je suis pas encore essoufflée. Donc, on continue. Et on a surtout de l'espoir que ça s'améliore, ça se développe et que la population puisse vraiment avoir enfin des produits... Accès principalement à des produits qui soient locaux et de bonne qualité face à d'autres produits étrangers qui ne sont pas forcément régis sous les mêmes réglementations.
Et justement, les initiatives du PAT peut-être peuvent répondre à certaines problématiques. Vous pensez, à l'abattage justement.
On l'espère. Sur ça et sur aussi peut-être le développement... de la vente de nos produits à des cantines, par exemple, ou autres. Ils y travaillent dessus et j'espère que ça aboutira. Il y a déjà de la réflexion dessus, donc c'est déjà un premier point. Après, tout prend du temps, donc on espère que ça aboutisse sur quelque chose qui soit réalisable et faisable dans les plus brefs délais, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu ce que vous observez, vous, en termes de transmission en élevage sur le territoire ?
Niveau transmission, j'en ai connu. Mais après, sur des assez gros systèmes, avec des gros financements du coup à faire. Et en fin de compte, s'il y a le moindre pépin, vu la taille des emprunts à rembourser, ça peut vite être assez catastrophique. Je vois surtout plutôt des créations d'exploitation, mais sur des petits effectifs, en tout cas en chef, par exemple. Je vois un peu plus ça. Et malgré tout, c'est quand même difficile, parce que souvent, c'est des hors-cadres, on ne peut pas être aidé. Certains, s'ils reprennent dans leur propre famille ou une exploitation déjà existante, il y a déjà du matériel en place. Donc certes, c'est payé dans le... Voilà. Mais là, il faut tout acheter. Et sur des petits effectifs, revenu à la bête, ça fait des plus grosses charges fixes, quoi.
Et vous, c'est ce qui s'est passé du coup dans votre...
Nous, on s'est installé. Alors, enfin, je me suis installée toute seule, mais on a acheté avec mon mari la propriété. Déjà, ça n'a pas été forcément évident, mais du coup, on l'a acheté en partie en privé et une autre partie en GFA où nous sommes trois associés, mon mari et sa mère, justement pour apporter des fonds pour pouvoir financer du coup toute la propriété. Et quand je me suis installée, on a eu des accords bancaires pour la première année d'installation et qui ne se sont pas poursuivis pour les autres années qui étaient où je devais prendre des crédits par rapport à mon plan d'installation des JA. Et en fait, vu que c'était Covid et tout, ça a ralenti par rapport à mon plan économique et ils n'ont pas suivi sur les crédits. Donc, il a fallu que ça soit nous. Soit on poursuivait, donc il fallait qu'on avance avec nos fonds propres. Voilà, ça c'était la partie la plus compliquée et c'est pour ça que heureusement on avait décidé que mon mari continue de travailler à côté pour avoir un revenu fixe qui nous permettait de vivre. Et en fait, au lieu de me rémunérer sur les premières années, tout ce qui aurait pu me revenir, j'ai toujours investi, voilà, acheter un tracteur, acheter mon véhicule pour faire les marchés, voilà. Améliorer pour le confort de travail, le confort de vie. Et surtout dans l'espoir d'avoir une ferme qui puisse évoluer et du coup pas stagner vu qu'on n'a jamais investi et puisse évoluer pour à terme être mon mari et moi sur l'exploitation, voire un temps plein en salarié.
Et peut-être le mot de fin, ce serait si vous avez quelque chose à dire aux consommateurs, en tout cas par rapport à la façon de consommer, etc. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire?
Acheter local. Acheter local, acheter fermier, petit fermier. Et surtout, voilà, soutenez-nous. Voilà, parce que c'est un métier qui est difficile, où on a du mal à vivre. Et que c'est aussi nous qui les nourrissons. Si un jour, il y a quoi que ce soit, c'est les agriculteurs du territoire qui les nourriront. Enfin, voilà, ils ont bien vu pendant le Covid qu'ils étaient bien contents d'avoir des producteurs de proximité. Maintenant que tout est réouvert, certains ont maintenu leur consommation de proximité, mais il y en a quand même pas mal qui sont repartis dans les supermarchés. Voilà, c'est bien quand même de continuer à penser à nous parce qu'on n'est pas là que pour dépanner de temps en temps. Ouais, je pense que c'est vraiment, voilà, manger local et petit, essayer, voilà, de ne pas pousser à avoir des trop grosses exploitations parce qu'après, même pour reprendre derrière, ben, c'est compliqué. Donc.
Donc, on vous retrouve au marché, dans des magasins de producteurs
Marché de Cassel-Sarrazin, de Mirabel, de Moissac le samedi. Mes produits sont aussi chez certains restaurateurs, chez des fromagers ambulants qui font aussi d'autres marchés. Et après, sur le drive fermier 82, et pour les professionnels, via aussi le 82 dans mon assiette.
Pour revenir à une des difficultés qu'a évoqué Andrea concernant l'abattage des animaux, après la fermeture de l'abattoir de Montauban en 2023, une réflexion a été lancée par un groupe d'éleveurs syndiqués à la Confédération paysanne. Ils souhaiteraient mettre en place un système d'abattoir paysan relocalisé dans le Tarn-et-Garonne. Sans ça, les éleveurs se retrouvent dans la difficulté pour faire abattre leurs animaux. Et ce, notamment lorsque la vente de leurs produits sont en circuit court, car ils ont besoin de récupérer les colis de viande dans l'abattoir pour ensuite les revendre dans leur circuit de commercialisation. Mais si l'abattoir se trouve à des kilomètres, ça signifie qu'il y a une perte de temps et d'argent par rapport à la distance parcourue. Andrea a aussi évoqué la difficulté à trouver des salariés agricoles. Les horaires peuvent être peu attrayants, avec par exemple une traite le matin, un creux la journée et une traite le soir. C'est aussi un travail physique qui demande de nombreuses compétences. Pour répondre à cet enjeu, il existe des initiatives où les éleveurs se regroupent pour partager un groupe de salariés. C'est assez fréquent en arboriculture par exemple. Cela permet d'optimiser un planning avec des horaires regroupés. Ce groupe de salariés permet de mutualiser des compétences et crée une dynamique de territoire où les éleveurs ne se voient pas comme des concurrents, mais comme des collègues. Si les sujets évoqués dans l'émission vous intéressent, vous pouvez retrouver sur le site de CFM d'autres épisodes sur l'agriculture en collectif, par exemple, ou sur la création de la coopérative laitière La Petite Ferme dans le Tarn-et-Garonne. Ou encore sur l'histoire de l'agriculture dans le département avec l'épisode « L'arboriculture, un patrimoine à préserver ». C'est la fin de cet épisode. Retrouvez l'émission tous les premiers mercredis du mois sur CFM Radio à 19h et le dimanche qui suit à 20h. Et en rediffusion sur le site web de CFM et de l'ADR 82. www.agriculturepaysanne.org/ADER82. J'en profite pour vous partager les événements prévus par l'ADR au mois de février. Car en effet, on organise des formations techniques à destination des agriculteurs et des personnes qui souhaiteraient s'installer. Le 10 et 17 février, ce sera sur le thème de l'installation en collectif, afin d'améliorer l'efficacité et le bien-être au travail. Puis le 3 et 4 mars, une formation est animée par deux pépiniéristes sur la greffe des arbres fruitiers. N'hésitez pas à nous appeler pour plus d'informations au 06 46 74 70 69. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve le mois prochain sur l'antenne de CFM Radio. C'était Les Voix Paysannes de l'ADR 82.